Bienvenue. Aujourd'hui, une exploration essentielle, je pense, pour toute société de gestion.
Ah oui, de quoi s'agit-il ?
Comment donner vie aux chiffres qui évoluent dans le temps ? Valorisation, cash flow, volume de deal, les indicateurs ESG aussi ? Souvent, on a tendance à les regarder un peu comme des photos, isolées, à un instant T.
Oui, c'est une bonne image, une photo. Et du coup, ça masque souvent la véritable histoire. Les tendances, les cycles.
Les signaux faibles, peut-être.
Exactement. C'est tout l'enjeu, en fait, de l'analyse des séries temporelles.
D'accord.
Et on va s'appuyer aujourd'hui sur une ressource pratique, la fiche IA Data numéro 10.
OK.
Pour voir comment des méthodes, même assez accessibles, permettent d'analyser, de visualiser et surtout d'anticiper ces dynamiques.
Anticiper, voilà le mot-clé. Alors, concrètement, qu'est-ce que cette approche peut débloquer ? Le guide mentionne des bénéfices directs.
Oui.
Un suivi plus fin de la performance réelle, des participations par exemple.
Tout à fait, c'est fondamental.
Une optimisation des ressources aussi, que ce soit pour les relations investisseurs, le back ou le middle office, le support.
Oui, c'est important. Et il y a autre chose.
Ah oui ?
La détection plus précoce d'évolution via les KPI opérationnels. Et ça, c'est crucial. Sans oublier une meilleure planification de la trésorerie.
D'accord, très clair. Alors, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, une série temporelle, qu'est-ce que c'est simplement ? C'est simple. C'est une séquence de données mesurées à intervalles réguliers. Des points dans le temps, quoi.
OK. Et les exemples dans le secteur, on en a déjà cité quelques-uns.
Oui, on trouve ça partout. Les valos trimestriels des participations, les flux de trésorerie mois par mois, le nombre de deals analysés, signés.
Voilà. Ou les indicateurs ESG qu'on suit chaque trimestre ou chaque année.
D'accord.
Analyser leur évolution, c'est vraiment passer d'une vision statique, la photo, à une compréhension dynamique, le film.
J'aime bien cette image du film. Et un point qui ressort fort du guide, c'est l'accessibilité. Pas besoin d'une armée de data scientists.
Non, et c'est un message clé. Bien sûr, il existe des modèles complexes, mais l'idée, c'est vraiment de démocratiser cette approche.
Comment ça va ?
Imaginez une équipe qui suit les indicateurs opérationnels d'une participation. Si on repère une légère baisse de tendance sur un KPI clé. Banalisé 3 mois plus tôt grâce à une simple moyenne mobile dans Excel, par exemple.
Ah oui, juste Excel.
Oui, ça peut permettre d'engager la discussion, d'agir de manière proactive, bien avant que ça impacte la valorisation de façon significative.
Donc chaque collaborateur peut développer cette sensibilité aux tendances, finalement.
C'est exactement ça.
Bon, on peut commencer simplement. Mais si on veut aller plus loin, quel type de modèle, quels outils sont évoqués ?
Alors, le guide mentionne un éventail de modèles, oui. Il y a des méthodes statistiques, disons, classiques, comme Arima.
OK.
Très efficaces pour des structures temporelles assez stables. Il y a aussi des outils comme Prophet.
Prophet ?
Oui, développé par Facebook. C'est spécifiquement conçu pour bien gérer la saisonnalité, qu'on trouve souvent dans les données business.
Intéressant. Et après ?
Et puis, bien sûr, des approches issues du machine learning. XGBoost, par exemple, qui est puissant sur les données structurées.
D'accord.
Ou même les réseaux de neurones, type LSTM, pour des dépendances temporelles complexes, longues. Mais là, ça demande plus de données, plus d'expertise aussi.
Donc, ce n'est pas une solution unique, c'est plutôt une boîte à outils.
Exactement. On choisit en fonction de ses données, de son objectif. Est-ce qu'on veut juste visualiser, prévoir ou peut-être détecter des anomalies ?
Et côté mise en œuvre ?
On a parlé d'Excel, mais pour les modèles plus avancés ?
Alors, pour ceux qui codent, il y a de très bonnes librairies Python. StatsModels, Prophet, XGBoost ou TensorFlow PyTorch pour les réseaux de neurones.
Ok, pour les plus techniques.
Oui, mais Jean-Fiste, on peut déjà faire beaucoup avec les tableurs courants. Excel, Google Sheets.
Ah oui.
Quoi par exemple ?
Les fonctions de calcul de moyenne mobile, les régressions linéaires simples pour voir les tendances, ce sont les moindres carrés en fait, et surtout les capacités graphiques. C'est un excellent point de départ pour déjà repérer des choses, des patterns.
C'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'équipes, ça. Et si on revient au cas d'usage spécifique en gestion d'actifs ?
Les applications sont vraiment nombreuses. La prévision des cash flows, c'est un classique, au niveau global ou même par participation.
Logique.
Le suivi des indicateurs ESG pour anticiper des déviations par rapport aux objectifs fixés. On peut aussi mieux calibrer la taille des équipes d'investissement en modélisant l'évolution future du pipeline de deals.
Ah, intéressant ça. Pour le dimensionnement. Oui. Et puis bien sûr, le suivi fondamental de la performance des boîtes en portefeuille. Chiffre d'affaires, EBITDA, effectif. Voir les dynamiques réelles derrière les chiffres bruts. Très clair. Si on devait synthétiser les messages clés de cette exploration. Alors, premièrement, il faut dépasser la consultation ponctuelle des données. Utiliser des modèles dédiés à l'analyse temporelle. même simple comme dans Excel, c'est nécessaire pour un pilotage vraiment informé. D'accord, sortir de la photo ponctuelle.
Voilà. Deuxièmement, cette analyse aide concrètement à anticiper, à prioriser les actions et donc à mieux allouer les ressources.
Ressources humaines, financières.
Tout à fait, les deux.
Intéressant. Et dans ce contexte, on parle beaucoup des grands modèles de langage, les LLM. Quelle est leur place ici? Est-ce qu'ils peuvent prédire ces tendances?
Alors, ça, c'est un point important à clarifier. Les LLM, en l'état actuel, ne sont pas nativement conçus pour la prévision de séries temporelles numériques. Ce n'est pas leur force.
Ah, non.
Non. Par contre, ils peuvent aider à exploiter les résultats de ces analyses.
C'est-à-dire?
Par exemple, générer automatiquement un premier jet de commentaires sur les tendances qu'on a observées. Ou analyser des documents textes associés à ces données, des rapports d'activité, des notes de marché pour enrichir le contexte.
D'accord, pour lier le chiffre au qualitatif.
Exactement. Ou encore créer des alertes en langage naturel si une prévision dépasse un certain seuil. Ils sont donc plutôt complémentaires à l'analyse quantitative elle-même.
Compris. Ils aident à interpréter et à communiquer les résultats. Bon, pour conclure, peut-être une pensée à méditer.
Oui.
Thématique d'informations qualitatives. Le contenu des rapports, les notes de réunion, le contexte marché qu'on arrive à capter. Comment tout ça pourrait affiner notre lecture de ces dynamiques temporelles?
C'est une excellente question.
Est-ce que ça pourrait nous aider à anticiper des points d'inflexion, des tournants que les chiffres seuls ne montrent pas encore?
C'est sans doute la question pour aller plus loin. Combiner l'intelligence des modèles quantitatifs, qui sont forts sur la structure temporelle, avec la richesse du contexte qualitatif.
Oui.
C'est probablement la prochaine frontière pour une compréhension vraiment augmentée des évolutions, passées et futures.
Une piste de réflexion très intéressante. Merci beaucoup.
Merci à vous.